Bonjour, bonjour les amis. Mon nom est Merlin. Et comme je suis magicien, on m'appelle aussi Merlin l'Enchanteur. Je suis très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Le temps n'existe pas pour moi. Et je me promène à travers les siècles comme vous vous promenez dans votre rue. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui vivait en Angleterre il y a environ 1500 ans. Son nom était Arthur. Mais comme il était malingre et maigrichon, tout le monde l'appelait Moustique. Il lui est arrivé des choses extraordinaires grâce à moi. Reportons-nous, voulez-vous, au commencement. Un après-midi, je flânais dans ma cabane, au milieu d'une profonde forêt d'Angleterre. Je m'apprêtais à prendre le thé. En fait, j'attendais un visiteur, quelqu'un de très important. J'en fis part à Archimède, et comme d'habitude ce jour-là, Archimède me contredit, jusqu'au moment où, par le toit de chaume de la cabane, dégringola d'un coup dans le fauteuil que j'avais placé là à son attention, le personnage que j'attendais.
Oh, quelle chute! Comment suis-je arrivé jusqu'ici? Voyons, je chassais avec Kay, soudain Kay a tiré une flèche qui s'est perdue dans la sombre forêt. Il m'a demandé d'aller la retrouver. J'ai marché longtemps, longtemps. J'ai vu soudain un énorme loup qui me suivait. J'ai grimpé dans un chêne pour lui échapper. J'ai rampé le long d'une branche, elle a craqué et...
Et à ce moment-là, tu es tombé directement ici, juste à l'heure du thé. Tu es un peu en retard, je t'attendais plus tôt.
Vous m'attendiez donc?
Eh oui. Mon nom est Merlin. Et toi, petit, comment t'appelles-tu?
Mon nom est Arthur. Mais tout le monde m'appelle Moustique.
Oh, Moustique? Voilà un nom bizarre. Mais qui te va pas mal.
Oh, le beau hibou empaillé.
Comment dites-vous? Empaillé? Empaillez-vous-même, jeune polisson.
Il est vivant? Et il parle?
Certainement. Et beaucoup mieux que vous ne pourrez jamais le faire.
Allons, allons, Archimède, sois raisonnable. Je te présente Arthur, dit Moustique. Et je te demande de lui pardonner son impolitesse. Ce n'est qu'un enfant.
Oui, un enfant qui m'a traité d'empaillé.
Je suis vraiment désolé de vous avoir appelé ainsi.
Ne te tracasse plus. Archimède est beaucoup trop susceptible.
Mais voulez-vous me dire, monsieur Merlin, comment vous saviez que...
Que tu viendrais pour le thé. Soit. Je dois t'avouer que je devine le futur, des siècles même à l'avance.
Vous voulez dire que vous voyez tout ce qui va arriver avant que cela n'arrive?
Absolument tout.
Absolument tout, Merlin.
C'est-à-dire pas exactement tout. Par exemple, aujourd'hui, je ne savais pas qui allait arriver pour le thé. Mais je vous ferai remarquer que j'avais placé un fauteuil exactement à l'endroit voulu.
C'est merveilleux. Vous êtes vraiment très intelligent, monsieur.
Eh oui, c'est vrai. Mais non, c'est-à-dire non. Et puis, sois gentil, ne m'appelle plus monsieur. Appelle-moi Merlin, comme tout le monde. Voyons, parle-moi un peu de toi. Où habites-tu?
Je vis chez le seigneur Hector, dans son château, où il demeure avec son fils Kay.
Et quelqu'un s'occupe-t-il de ton instruction?
Oh oui. Le seigneur Kay parfait son éducation et son entraînement pour devenir chevalier. Et si tout va bien, j'espère qu'il me prendra comme écuyer. J'apprends les règles du tournoi, celles de l'escrime, celles de la joute, et puis j'apprends aussi à soigner les chevaux.
Je vois, c'est très bien. C'est-à-dire que non, ce n'est pas très bien. C'est même très mal. L'instruction, c'est autre chose. Il faut apprendre les mathématiques, l'histoire, les sciences naturelles, le français, le grec, le latin. Non, 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 mon garçon, non, non, tu ne peux pas continuer à grandir ainsi sans recevoir une réelle instruction.
Ma foi, vous avez peut-être raison.
J'ai totalement raison. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui deviendrai ton professeur.
Mais je dois m'en retourner au château. Ils ont besoin de moi aux cuisines. J'ai laissé une montagne d'assiettes à nettoyer. Car le seigneur Hector m'emploie aussi pour balayer, faire la vaisselle, récurer, nettoyer et servir à table.
Très bien, puisqu'il en est ainsi. Nous allons déménager et venir avec toi. Alors voyons, où est mon sac?
Mais monsieur, c'est-à-dire Merlin, vous voulez dire que vous allez emporter tout ce qu'il y a dans cette cabane dans le petit sac qui est à vos pieds? Mais vous ne pourrez jamais. Il y a des centaines de gros livres, des meubles, des vases, de la vaisselle. Il vous faudrait au moins 10 charrettes.
10 charrettes? Et tu dis que je ne pourrais pas faire entrer tout ce qu'il y a ici dans ce petit sac? Eh bien, écoute et regarde. Je suis sûr que tu vas beaucoup aimer ce qui va arriver.
Hijiteux, suijiteux, zombakadzom, je vais vous demander toute votre attention. Préparons ensemble nos paquets. Rangeons les livres en premier. Allons. Wakati pakati wakati wak, abracadabra dabranak. Et voilà, ici plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Igitus, igitus, migitus, man, prestidigitonium. Cicéron reste dans l'essai, gardez donc l'ordre s'il vous plaît. Alicafès, Balicanès, Malacamès, Méripides. Diminuez, monsieur le dictionnaire, ce mot est au vocabulaire. Wakati, pokati, wakati, wak, c'est bien mieux que d'être en vrac. Igitus, migitus, migitus, mam, prestidigitonium, presbotonium. Ah, mais non, c'est pas ça. La, 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 la. Mais ne vous bousculez pas, voyons, mais qu'est-ce qui arrive? Oh, il faut que je retrouve la formule. Voyons, voyons, voyons. Wakotipok. Ah, voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Wakotipokati, wakotiwak, ramassons le bric-à-brac. Igitus, figitus, migitus, mam, prestidigitonium. Igitus, figitus, migitus, mam, prestidigitonium. Allons, allons-y. Passons, allons. Allez.
Oh, c'est merveilleux. Quelle drôle de manière de faire ces paquets. Tous les objets volent autour de nous. Ils vont se ranger dans le sac en devenant minuscules. Et même le lit, et le fauteuil, et la table. Oh, c'est vraiment de la magie.
Ma foi, tu as raison. Tu as raison. Mais ne va pas te mettre en tête des idées fausses. Et ne crois pas surtout que cette magie pourra résoudre tous tes problèmes. Tu dois développer ton esprit. La science, la connaissance, voilà la réelle puissance. Alors, en route pour le château. Et demain, dès la première heure, nous entreprendrons notre programme. Même dans ce Moyen-Âge obscur, un jeune homme comme toi doit savoir ménager son avenir. Alors, haute. Veux-tu m'indiquer le chemin du château?
Vous voulez dire qu'avec toute votre science, vous ne devinez pas ce chemin?
Mon garçon, tu commences à comprendre que ce vieux fou philosophe n'est pas tellement savant.
Tais-toi, Archimède. Comme d'habitude, tu dis des sottises. Et toi, moustique, sans protester, montre-moi le chemin.
Tous les enfants et tous les hiboux devraient savoir qu'un magicien de mon importance ne gaspille pas sa puissance à deviner des petites choses, comme la direction d'un château. Je dois penser à des événements beaucoup plus importants et résoudre des problèmes bien plus graves. Ainsi, ceux qui m'attendaient lorsque nous arrivâmes au château du seigneur Hector. Oh, de ma vie entière, je n'avais vu de gens aussi stupides et bornés. Nous reçûmes au château un très mauvais accueil. Moustique entra le premier dans la grande salle.
Voilà du nouveau, Galopin. Tu abandonnes ton travail pour aller tout le jour gambader dans les bois?
Je suis désolé, seigneur.
Tu feras 4 heures supplémentaires de travail dans la cuisine. Allons, file.
Mais seigneur, je voudrais vous présenter...
File, te dis-je. Et sans protester, il faut une discipline sévère. Spécialement pour les galopins comme toi.
Non, je ne suis pas d'accord.
Oh, ça me qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré ici?
Mon nom est Merlin. Et je vous présente Archimède, c'est mon compagnon. Et c'est un hibou très savant.
Un hibou savant. Ah, en voilà une bien bonne. Redites-moi ça encore. Un hibou savant. Ah, mon cher Turlin, vous allez m'annoncer que vous êtes magicien aussi.
Je vous ai dit que mon nom était Merlin, et non Turlin. Il se trouve précisément que je suis un magicien. Et le magicien le plus savant de ce monde.
Allez, allons-y, vieil homme, un magicien. Montre-moi ton savoir. Fais-moi peur.
Oh, très bien. Vous l'aurez voulu. Hégitus, figitus, digitus, vent du nord, souffle fort, blizzard, grisard, noir, brouillard, neige, pluie, trompe au hasard.
Mais il fait un froid de loup dans ce château, et toutes les fenêtres sont fermées. Il neige en plein mois de juillet. Mais arrête, démon! Arrête! Alors, soyez bon, mon cher Zurlin. Vous avez raison. Je suis convaincu.
Je vous ai déjà dit que mon nom est Merlin, et non Zurlin. Enfin, soit. Je veux bien vous obéir. À la Kazam, à la Kam, Ham, vent du nord, rentre au port.
Ah, je me sens mieux. J'espère que vous ne vous servez pas de votre magie pour détruire le monde.
Oh, non, 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 monsieur, non. J'utilise ma magie uniquement dans un but bienfaisant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me trouve ici. J'ai décidé de faire l'éducation de moustiques.
Ah, non, non, vous ne la ferez pas. Vous ne toucherez pas à mon page. Si vous êtes venu ici pour bouleverser ma vie, mieux vaut que vous fassiez vos bagages et que vous disparaissiez tout de suite. Au ciel, il a disparu, comme par enchantement.
Hélas, me voilà abandonné.
J'ai disparu, mais je ne suis pas parti. Ainsi, vous ne saurez jamais où je me trouve. Et je vous poursuivrai sans cesse.
Très bien, très bien. Vous avez gagné, Turlin. Alors, revenez.
Merlin, avec un M, comme marmelade. Vous ne seriez pas content si je vous appelais Seigneur Butor.
Soit, je vous offre l'hospitalité. Vous aurez une chambre dans la tour qui est là-bas, de l'autre côté du pont. C'est la tour où je loge mes invités.
C'était bien la chambre la moins accueillante, placée dans la tour la plus vétuste du château. Le vent et la pluie y entraient par tous les orifices. Archimède insistait beaucoup pour que nous retournions chez nous, mais je lui dis que malgré tous les efforts qu'il faisait pour me décourager, Hector ne parviendrait pas à me faire abandonner mon projet. La nuit vint, et un terrible orage éclata.
Jamais nous ne pourrons tenir. La pluie entre par le toit et je suis aussi trempé qu'une soupe.
Patience, Archimède, patience. Et puis voilà une excellente occasion pour toi de prendre une douche et de lisser tes plumes.
Une douche? Je n'en ai pas besoin. J'ai pris un bain il n'y a même pas 10 ans quand je suis tombé dans l'étang.
Tiens, le pont-levis a été abaissé. Et je vois 2 seigneurs qui entrent dans la cour du château. Archimède, tu vas voler jusqu'à la fenêtre de la grande salle et me rapporter exactement la conversation qu'ils vont avoir avec Hector.
Toujours les tâches ingrates. Enfin, mission accomplie, Merlin. Le seigneur Pellinor et son page arrivaient de Londres pour annoncer au seigneur Hector une nouvelle extraordinaire. Un grand tournoi aura lieu le jour de l'an nouveau. Et le vainqueur se verra attribuer la couronne d'Angleterre. Et Hector jubilait. Le pauvre homme est convaincu que Kay, son fils, aura terminé son entraînement de chevalier pour le Noël, qu'il pourra participer au tournoi, qu'il gagnera et qu'il deviendra roi.
Pauvre Hector. Cela nous donne une idée de son intelligence et de sa clairvoyance. Kay, roi d'Angleterre.
Il compte sans doute pour gagner le tournoi sur son écuyer moustique, qui sait à peine distinguer une soupière d'une rapière. Bien, nous allons nous occuper de tout cela. Pour l'instant, essayons de dormir.
Le matin suivant, je décidai de commencer mon programme. Et ma foi,
je ne résistais pas au plaisir de mêler à cette éducation un peu de magie.
Je trouvais Moustique flânant au bord de la rivière.
Oh, regardez Merlin. L'eau est si limpide qu'on en aperçoit le fond. Je ne me lasse jamais de regarder la rivière. Elle contient tant de richesses.
Aimerais-tu nager au fond de l'eau comme un poisson et découvrir tout ce qui s'y passe? Moi, je peux le faire.
Vous voulez dire que vous pouvez devenir un poisson?
Exactement. Ne suis-je pas magicien?
Et vous pourriez faire de moi aussi un poisson?
Eh bien, si tu ne manques pas d'imagination, est-ce que tu peux t'imaginer un poisson?
Ça, c'est très facile. Je l'ai fait déjà une quantité de fois.
Parfait. Parfait. Ma magie fera le reste. Voyons. Archimède! Archimède! Quelle est déjà la formule pour devenir poisson? Je l'ai oublié.
Quoi? Ouh! Vous m'avez réveillé en sursaut.
Mais voyons, tu sais bien cette formule en latin, là.
Poisson! Latin! Ah, oui, je vois, c'est... Aquarius, Aquaticus, Pixis, Flominis, etc., etc.
Ah oui. Aquarius, Aquaticus, Aqualitus, Pichis, Flominis, Aqua Digitonium.
Oh, chic alors! Voilà un merveilleux moyen d'aller à l'école. Oh, Merlin! Oh, c'est délicieux de se sentir aussi bien dans l'eau. Un poisson? Je suis un poisson? Oh, pas très gros, mais... En fait, quel genre de poisson?
Une perche, mon ami. Et maintenant, en route! Commençons notre première leçon.
Gauche, droite, un, deux, gauche et droite, nuit et jour, c'est ce qui fait que tout tourne rond. Un jamais, un toujours, c'est ce qui fait que tout tourne rond. Si pour un court, il y a un long, pour le carré, il y a le rond. Si pour l'espoir, il y a l'ennui, pour le très grand, il y a le tout petit. Pour l'arrêt, un départ, c'est ce qui fait que tout tourne rond. Pour le plus tôt, le plus tard, c'est ce qui fait que tout tourne rond. Et si le haut tombe à zéro, c'est que la vie est faite ainsi. C'est ce qui fait que tout tourne rond. Allez, petit, nage. C'est bien, voilà. Alors, un petit coup de nageoire à droite, un petit coup de nageoire à gauche, hein, voilà. Mais oui, c'est très bien ça. Il est doué, ce garçon. Attention, hein, faut pas t'accrocher au roseau. Allez, nage, voilà, gauche, droite, allez.
Nous venions de visiter complètement le lit de la rivière. Et j'avais donné à Moustique quelques explications sur la flore aquatique. Quand le terrible brochet apparut. Ah, je dois avouer que je ne l'avais pas prévu. C'était le plus monstrueux brochet que j'avais jamais rencontré. Il avançait, la gueule béante, les dents menaçantes vers le jeune Arthur, et il s'apprêtait à n'en faire qu'une bouchée. Oh, à le voir aussi affamé, on pouvait croire qu'il n'avait pas mangé depuis 2 semaines. Et pour comble de malheur, j'avais oublié la formule magique
qui me permettait de retransformer Moustique en un petit garçon. Oh, plus je la cherchais, plus elle m'échappait. Et pendant ce temps, le brochet approchait de sa proie. Oh, il était sur le point de la happer. Quand, dans un ultime effort, Moustique fit un bond désespéré hors de l'eau. Et le brave Archimède, réveillé en sursaut par ce vacarme, le saisit au vol par sa queue et le sauva du monstre. Oh, oh, c'est à ce moment que je retrouvais la formule magique.
Merlin, Merlin, Archimède m'a sauvé.
Non, je n'ai rien fait de semblable. En réalité, j'avais envie de le manger. Vous savez que les jeunes perches sont mon plat favori.
Allons, allons, Archimède, allons. Ne te fais pas moins bon que tu ne l'es. Tu n'as jamais pu goûter un poisson de ta vie. Je crois plutôt que tu commences à t'intéresser beaucoup à Moustique.
Eh bien, je crois que j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je vais retourner à ma cuisine.
Quelques heures après cet incident, je retrouvais le pauvre Moustique accablé de travail et aux prises avec un monceau d'assiettes, de plats, de casseroles, de pots à nettoyer. Oh, vraiment, j'eus pitié de lui. Et comme je souhaitais qu'il aille faire une petite promenade dans les bois, je décidai d'utiliser un peu ma magie pour l'aider. J'en sorcelais les assiettes, les plats, les casseroles, les balais, les chiffons, le savon, les lavettes. Et je l'ai mis en route.
Alors commença une danse incroyable dans la cuisine.
Le savon faisait des bulles tout seul. Les assiettes plongeaient dans les bassines, tournaient, s'y rinçaient et s'y lavaient.
Les balais frottaient les parquets sans plus qu'on ait à intervenir.
Oh, merveilleux! C'est merveilleux! Le travail se fait tout seul. Nous pouvons aller nous promener.
Ah, maintenant, mon garçon, nous allons prendre notre deuxième leçon de science. T'es-tu un jour demandé ce que tu ferais si tu étais un écureuil? La nature a posé à cette petite créature d'énormes problèmes. Ah, l'écureuil n'a pratiquement aucune défense. Voudrais-tu devenir un écureuil pour un moment afin d'essayer de comprendre ses problèmes?
Non, non, sincèrement, je ne préfère pas.
C'est trop dangereux, hein?
Non, pas précisément.
Ah, alors essayons!
Le danger principal auquel je n'avais pas pensé se présenta, hélas pour Moustique, sous la forme d'une charmante petite écureuil qui vint gambader autour de lui, se frotter contre sa fourrure, s'enrouler autour de son cou.
Et pour moi, sous la forme d'une bonne grosse vieille écureuil, stupide à souhait, qui semblait me trouver à son goût et qui apparemment voulait que je devienne son bon vieux mari.
Oh, quelle équipée, mes amis! Oh, Moustique et moi avions beau essayer de faire comprendre à ces deux femelles que nous n'étions que de faux écureuils. Oh, elles ne voulaient rien entendre! Et toute notre leçon de science se passa à les fuir de branche en branche et à tenter d'écarter nos museaux des leurs.
Ça me permit cependant d'expliquer à Moustique ce qu'était l'amour et comment il se manifestait.
Quand nous reprîmes notre forme humaine, au grand désespoir des deux écureuils,
je me rappelais soudain que j'avais oublié d'arrêter la grande danse des assiettes, des balais, des plats dans la cuisine.
Oh, nous courûmes au château, prêts à affronter la catastrophe. Au milieu de la cuisine, transformée en une énorme cuve remplie de bulles de savon, le seigneur Hector, son fils Kay et tous les cuisiniers essayaient d'arrêter la danse infernale des assiettes qui se lavaient et se relavaient elles-mêmes sans arrêt. Je prononçais la formule magique et en quelques secondes, tout rentra dans l'ordre.
Ainsi vous voilà, vieux sorcier imbécile. Vous voulez transformer tout mon château en enfer.
Ah, parce que vous estimez que faire la vaisselle est un travail d'enfer. Ainsi vous avez condamné le jeune Arthur à subir ce châtiment.
Oh, ne faites pas d'esprit. Moustique est dans ce château à la condition de remplir sa tâche. Et sa tâche est de faire la vaisselle et non d'aller gambader dans les bois avec vous, vieux démon.
Non, je ne vous laisserai pas dire cela. Ce n'est pas un vieux démon. Il est bon et savant, et sa magie est un bienfait.
Ne me parle pas ainsi, Galopin. Oh, la coupe est pleine. Et pour te punir définitivement, je t'annonce que tu n'iras pas à Londres comme écuyer de quai.
Je savais combien ce voyage à Londres comptait pour le pauvre Arthur, et je tentais de le consoler du mieux que je le pouvais. Je lui fis valoir que la seule chose qui était importante était son éducation. et pour continuer nos leçons, je décidai de le transformer en un gracieux petit moineau pour étudier le ciel et les arbres. Je me fis moi-même rouge-gorge et nous prîmes tous deux beaucoup de plaisir à voleter de branche en branche jusqu'au moment où un faucon qui avait aperçu le jeune Arthur transformé en moineau fondit sur lui. En fuyant, Arthur, affolé, se jeta tête la première dans un danger encore plus grand. Il atterrit au beau milieu de la maison de ma pire ennemie, Dame Mime, la plus affreuse sorcière de toute l'Angleterre.
On dirait que quelqu'un est malade. Quelle chance! Si ça pouvait être une terrible épidémie, quelque chose d'affreux! Oh, malédiction! Ce n'est qu'un misérable petit moineau qui se permet de venir éternuer chez moi!
Oh non, madame! Je ne suis pas réellement un moineau, je suis un garçon!
Un garçon?
Merlin m'a transformé grâce à sa magie en un moineau. Vous savez, c'est le plus grand enchanteur qui soit au monde.
Merlin, le plus grand enchanteur. Quelle plaisanterie! Tu veux dire le plus grand tricheur? J'ai plus de magie dans mon petit doigt qu'il n'en a dans tout son vieux corps, des talons au bout de la barbe. Moi, je suis Dame Mime. Écoute un peu. De baguette. Je peux très bien zam zamarim bim dessécher les fleurs. J'aime semer l'angoisse et la peur.
Oh, c'est terrible.
Merci, petit. Mais pour moi, c'est un jeu. Un jeu. Parce que je suis la magnifique, merveilleuse, ah, Madame Bim. Je peux être énorme à l'infini, ou bien petite comme une souris. La magie noire, c'est ma partie. Ah, 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 allons petit, je suis la magnifique, merveilleuse, ma Madame Mime. Afin de m'envoler, pas besoin de balai, il me suffit la petite zim zabarim zoom. Je suis la magnifique, merveilleuse, ma Madame Bim.
Je peux être aussi gracieuse et belle, avoir une voix qui m'ensorcelle. La 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 la.
Petit zim, zabarim, bim! Et je deviens dragon, moi, magnifique, merveilleuse, ma-ma-ma-ma-bim!
J'avais perdu la trace de moustique, et c'est le brave Archimède qui vint me prévenir qu'il était tombé entre les mains de la terrible sorcière. Je prononçai la formule magique, et je retransformai immédiatement moustique en un jeune garçon. Oh, oh, il était temps! Car au moment où j'arrivais, l'horrible Mime s'était transformée elle-même en chat et s'apprêtait à croquer le moineau. Furieuse, elle me provoqua en un duel de magiciens. Je n'avais pas très envie de me mesurer avec cette vieille folle. Mais pour sauver mon honneur, cependant, devant Arthur et Archimède, j'acceptai le combat.
Tout d'abord, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais dicter les règles de ce duel.
Les règles, en vérité! La seule chose qu'elle veuille, ce sont des règles pour mieux les violer.
Je m'occuperai de toi tout à l'heure, boule de plume puante.
À votre disposition, chère vieille soupière ébréchée.
Règle numéro 1. On ne pourra se transformer ni en minéral ni en végétal, seulement en animal. Règle numéro 2. ne jamais prendre la forme d'animaux de légende comme les dragons verts ou autres chimères de ce genre. Règle numéro 3, pas de disparition complète.
Règle numéro 4, pas de tricherie.
D'accord, d'accord. Et maintenant, faites de la place. 1, 2, 3, 4, hop!
Merlin, elle a disparu.
Ah, Mime, j'ai dit pas de tricherie, c'est vous qui avez fait les règles.
Attention, Merlin, elle s'est transformée en crocodile, elle est juste derrière vous.
Oh, catastrophe! Merlin a tellement peu l'habitude de ce genre de combat qu'il s'est trompé. Le voilà transformé en tortue, et l'affreuse Mime va le rattraper et n'en faire qu'une bouchée.
Ça y est, il s'est transformé en lapin, il court, elle ne peut plus le rattraper.
Ah oui, mais elle vient de se transformer en renard.
Change vite, Merlin, vite, quelque chose de très gros.
Saperlipopette, il s'est encore trompé. Le voilà transformé en rat, et elle est devenue en serpent à sonnette.
Merlin,
plus gros, quelque chose de plus gros.
Oh, il ne nous écoute pas, le voilà transformé en souris.
Et elle en diplodocus. Ah, elle va l'écraser. Ah non, il est devenu un crabe.
Et elle est un rhinocéros, et maintenant un tigre.
Ah, la tricheuse, je savais bien qu'elle ne respecterait pas les règles. La voilà transformée en dragon rose, et elle crache des flammes.
Ah non, Mime, rappelez-vous, pas de dragon.
Je dis pas de dragon vert et je suis un dragon rose. Et tu vas mourir.
Oh, le pauvre Merlin a été pris dans un jet de flamme du dragon. Il a disparu.
J'ai gagné. Le duel est terminé. Adieu, Merlin.
Où est Merlin? Mais où est-il?
Oh, cette sale sorcière.
Je n'ai pas été vaincu, chère madame. Je suis devenu tout petit. Oh, si petit que plus personne ne peut me voir. Je suis un microbe. Le microbe qui détruit la race des dragons. Et vous m'avez attrapé. Et vous allez souffrir.
Quel trait de génie!
D'abord, vous allez être couverte d'énormes taches. Puis vous allez avoir une fièvre violente. Puis des éternuements incessants.
Oh, vous, vieux héron édenté.
Ne vous faites pas trop de soucis, madame. Vous retrouverez votre santé dans une vingtaine de semaines. Et vous serez aussi belle, je veux dire aussi vilaine que toujours.
C'est ainsi que s'acheva ce pénible duel. Et je dois dire que Dame Mime cessa de nous tracasser. Quelque temps s'écoula encore, et j'espérais que le jeune Arthur avait définitivement abandonné l'idée de devenir l'écuyer de Kay. Hélas, contrairement à toutes mes prévisions, Kay parvint à devenir chevalier, et à ce titre à participer au grand tournoi de Londres, où devait se disputer la couronne d'Angleterre. Arthur était entré à nouveau dans les bonnes grâces du seigneur Hector, et plus que jamais, il briguait le poste d'écuyer. Je fus tellement contrarié et découragé que je décidai d'abandonner Moustique à son sort, et de prendre un peu de vacances, en des endroits plus cléments de ce monde.
Après tant d'efforts, je dois avouer que ce n'était pas très malin. Je vais donc continuer le récit à ta place. Quand le jour de l'an arriva, Kay et Moustique prirent le chemin de Londres, et Kay avait revêtu son habit de chevalier. Il montait une vieille rosse toute caparaçonnée de couvertures et de brocarts mangés au mythe. Et le champ du tournoi offrait un spectacle grandiose. Avec ses pavillons colorés, ses beaux chevaliers brillants sous leur armure d'or et d'argent, et la foule bigarrée qui attendait que son roi fût désigné. Hélas! J'avais raison de m'inquiéter, car Moustique était un bien piètre écuyer. Au moment de l'ouverture du tournoi, il s'aperçut qu'il avait oublié l'épée de Kay dans une auberge. Et oui, il s'était arrêté en chemin. Et alors, désemparé, il regarda autour de lui et vit près d'un petit cimetière derrière l'église une énorme épée prise dans une enclume jusqu'à la garde et scellée dans un bloc de granit. Il se précipita sur cette arme et sans difficulté,
il parvint à extraire l'épée et s'empressa de la remettre à quai.
L'épée de l'enclume?
La grande épée qui a été tirée de l'enclume.
Voyons, mon garçon, où as-tu pris cette épée?
Je l'ai pas volée, seigneur. Je l'ai trouvée là, dans le cimetière, plantée dans une enclume.
Tu dis bien plantée dans une enclume?
Oui, seigneur.
Et tu l'as tirée? Ce n'est pas possible. Viens avec moi, montre-moi où tu l'as prise.
Oui.
Allons-y tous.
Allons voir si cela est vrai.
Allons voir.
Alors, toute la foule, les chevaliers, les nobles, les écuyers, les gens du peuple suivirent Moustique vers le cimetière. Et Moustique replaça la grande épée dans la fente de l'enclume, là où il l'avait trouvée. Sur la pierre était gravée l'inscription suivante.
Quiconque sera capable d'arracher cette épée à cette pierre sera nommé roi de droit divin et règnera sur l'Angleterre.
Si ce maigrichon d'écuyer a été capable d'arracher cette épée, tout le monde peut le faire. L'inscription est fausse.
Laissez-moi essayer.
Elle ne bouge même pas. Il ne peut pas y arriver.
Ah, laissez-moi essayer à mon tour.
Oh, regardez. Il est cramoisi sous l'effort et l'épée ne bouge pas d'un cheveu.
Kay, tu es plus fort que moi. Essaie.
Non, personne ne peut arracher cette épée.
Ce garçon a menti. Laissez-le essayer à nouveau.
Allons, mon petit moustique, essaie.
Ça m'a été très facile tout à l'heure. Regardez.
Il est arrivé. Il est le roi.
Cet enfant est le roi d'Angleterre. Roi d'Angleterre.
Mais naturellement, et j'aurais dû m'en douter, le roi Arthur. Voilà le personnage important qui m'avait été envoyé pour prendre le thé avec moi.
Merlin, d'où viens-tu?
Je reviens du 20e siècle, mon garçon. Et je peux te prédire maintenant que tu vas devenir célèbre, un roi de légende. On écrira des livres sur toi, on fera même un film de cinéma.
Un film de cinéma? Mais qu'est-ce que c'est que cela?
Ce n'est rien, c'est quelque chose comme la télévision.
Hélas, je ne comprends rien à ce langage. Je crois que je n'en sais pas assez pour devenir roi.
Ne t'inquiète pas, petit. C'est maintenant que tu vas apprendre. Et je serai à tes côtés pour t'aider. Un grand roi. Tu vas devenir un grand roi. Allons, majesté, le peuple vous réclame pour vous couronner.
D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi que lorsqu'il mourut, nul ne put décider qui serait son noble héritier. Alors le pays pleura son destin lorsqu'un miracle un matin survint. Car dans la ville de Londres, on vit soudain l'épée. De nombreux chevaliers sont alors venus, autant d'espoir déçu. Aucun d'entre eux ne put retirer l'épée dont ils ignoraient le secret. Afin de régner, il fallait surtout un cœur honnête et doux. Savoir rester humble et donner aussi sa vie entière.